Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg. Notre invité aujourd'hui, vous l'entendez tous les soirs à 18h. Bonjour Bernard Abouaf.
Bonjour.
Vous dites pas souvent bonjour à la radio.
Non, je dis bonsoir.
Alors Bernard Abouaf, vous êtes le président de Radio Shalom à Paris. Vous êtes également le directeur de la rédaction. Ça consiste en quoi ce rôle-là?
Ben, depuis un an et demi, c'est du 24, c'est du H24, comme on dit. Mmh. Avec beaucoup d'angoisse, parce que c'est des sujets qui touchent beaucoup la personne du journaliste. Quand vous traduisez, par exemple, l'oraison funèbre de Yerden Biba, c'est... Moi, j'ai cru qu'en plein journal, je me suis dit, ben, tiens, on va pas, tu finiras, ou tu finiras pas la traduction, ou tu vas pleurer. Mais je vous apprends rien. Vous avez aussi vécu ça et vous le vivez encore aujourd'hui. On a l'impression qu'on est quand même un peu vers une pause aujourd'hui, mais je pense que le feu couve, que les deux parties veulent y retourner.
Comment on dit? On dit Bernard Abouaf ou Bernard Abouaf? C'est quoi votre vrai nom?
C'est Bernard Abouaf.
Ah vous, d'accord. Je crois d'origine turque, me semble-t-il.
C'est turc et il paraît que, c'est des noms de grands rabbinim. Ah. Par exemple, le rabbin qui a excommunié Spinoza, c'est Yitzhak Abouaf.
D'accord.
Par exemple, il y en a beaucoup. C'est des rabbinim, c'est une famille de rabbinim. Même l'un des maîtres du Beit Yosef de Rabbi Chaim Karéo, c'est le Mahari, et le Mahari, c'est Rabbi Yitzhak Abouaf.
Vous n'êtes pas un rabbin pour l'instant?
Non, moi je suis pas rabbin, je connais rien du tout. Mais par contre, je vais répondre à vos questions.
Ah ouais, ça, sur un autre sujet. Je voudrais qu'on revienne évidemment sur ce qui se passe en Israël, et il y a beaucoup de sujets en Israël. Et on va commencer par ce sujet-là. Lors de la signature de l'accord, vous avez été à la radio à Paris interroger de nombreux spécialistes, et tout le monde a donné le même avis, que cet accord était un mauvais accord. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il faut s'en féliciter ou se dire qu'il fallait le faire, il fallait le signer?
Je pense que c'est deux questions qui sont différentes, et je pense que beaucoup de gens pensent oui à vos deux questions. Donc vous me posez en une fois, est-ce que c'est un mauvais accord? Oui. Est-ce qu'il fallait le signer? Oui. Mais des fois, vous savez, faire un choix, c'est pas entre une bonne et une mauvaise décision. Faire un choix, c'est entre deux mauvaises décisions. C'est ça, choisir. Donc, il fallait absolument faire sortir le maximum de gens. On se doutait, et maintenant on l'a sous nos yeux, que plus les semaines passeraient, plus l'état des gens libérés serait dramatique. Je pense que Elisha Rabbi a passé toutes les limites de l'horreur. Perdre 30 à 40 kilos, enchaîner jour et nuit, enchaîner pour aller aux toilettes. Les chaînes et les cadenas qui lui sont rentrés dans les os, c'est-à-dire il est blessé dans sa chair, qui sont rentrés dans la chair, qui ont frotté les os, ossements. Donc, il arrive un moment, il fallait les libérer. C'était un objectif de guerre.
D'accord.
C'est libérer les otages, ouais. Détruire le Hamas entièrement, ouais. Détruire la menace Hamas, pas l'idée Hamas, mais sa menace militaire, et ramener les otages. Donc on devait le faire.
Quitte à libérer 1000 terroristes palestiniens.
Alors moi, il y a quelque chose auquel j'ai jamais cru, parce que c'est pas mon expérience journalistique, c'est l'idée, on sort, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon on rentrera après, ou bien on sort, donc que ce soit le Liban ou la bande de Gaza, mais ne vous inquiétez pas, dès qu'il bouge, on casse tout. De toute ma vie de journaliste, j'ai vu le contraire. Lorsqu'on a quitté le Liban, on a dit, je vous préviens, Ehud Barak, il a dit, je vous préviens, il était chef d'état-major, je casse tout si jamais il y a une seule roquette. Je te dis pas le cauchemar qu'ont vécu les gens à Kiryat Shmona. Gaza, bon, bah, c'est même pas la peine d'expliquer aux auditeurs de radio qui vous écoutent, de Radio Judaïque à Strasbourg. Donc, normalement, j'y crois pas. Mais attendez, je finis ma phrase parce qu'il y a quelqu'un de très important qui y croit. Et je me dis que si lui, il y croit, je pense pas que c'est de la propagande parce qu'il n'a aucune raison d'en faire sur ce sujet-là. Il peut en faire sur d'autres sujets. Il dit, c'est Yossi Cohen, l'ancien directeur du Mossad, qui dit ça. Il dit, on sort, on récupère nos otages et on y retourne.
D'accord.
Ok. C'est un expert.
Justement, il y a une question que je me posais tout à l'heure en préparant l'émission. J'ai relu les différentes déclarations du Premier ministre de Yoav Gallant qui disait « ça y est, on a tout arrangé à Gaza, il n'y a plus de problème, finalement, c'était un gros mensonge ».
Non, je pense que
Le Hamas est toujours à Gaza.
Non.
Non.
Ah, le Hamas qui dit que tout est revenu dans l'ordre, bien sûr que c'est un mensonge, c'est évident. C'est évident que c'est un mensonge. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'ils foutent en l'air toute leur propagande sur le génocide, sur l'affamement de la population, uniquement pour des raisons d'honneur. Parce que c'est une question de crédibilité militaire et d'honneur, en fait, dans le monde arabe. Et regardez, on a tout. C'est ridicule. Mais de toute façon, des questions d'honneur comme ça, on le voit même dans nos vies à nous de tous les jours, sont toujours ridicules. Celui qui compte d'abord à montrer, je vais te montrer que je suis un homme, et ça ne devrait pas être une priorité normalement pour un dirigeant. Je vais améliorer.
Le Hamas n'existe plus à Gaza.
Non, je peux dire ça.
Ah.
Mais dire qu'ils ont tout rétabli, non.
Okay.
Par contre, dire par exemple que maintenant tous les magasins sont achalandés, mais déjà, je ne sais pas combien il y a de magasins qui sont restés debout à Jabalia, par exemple. Donc, non. Mais maintenant, le Hamas n'est pas détruit. Mais ça va être très difficile de détruire le Hamas. Parce que l'objectif de guerre n'est pas de détruire le Hamas. L'objectif de guerre est de détruire les capacités militaires d'un groupe terroriste qui était passé au stade de milice et qui ensuite a commencé à avoir des unités et des brigades dignes quasiment d'une petite armée. Quand le rapport de Tzahal dit qu'ils sont rentrés à 5500, vous savez le nombre de gens que ça fait. Ils sont rentrés à 5500 le 7 octobre en territoire israélien. On n'est pas dans un groupe terroriste. D'ailleurs, là, c'est... Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça peut même aussi réconforter vos auditeurs sur le mensonge autour du génocide. 5500, on va dire, militaires du Hamas, pas des civils. Ils vous disent, ouais, ils tuent des milliers de civils, c'est 5500.
Il y a des civils qui ont participé quand même à ce qui s'est passé le 7 octobre.
Ouais. Nir Oz, par exemple, trois vagues. D'abord le Hamas, puis après c'est les civils qui sont venus, qui ont commis des atrocités, et puis après c'est un groupe proche du Hamas, mais pas le Hamas, c'est trois vagues. Si vous voulez, d'ailleurs, trois vagues qui nous posent une autre question, c'est comment ça se fait, trois vagues, et ils sont où les soldats de l'armée? Trois vagues, ça fout du temps quand même. Hamas, puis après les civils, puis après des milices armées proches du Hamas.
C'est une des questions.
Et pendant ça, il n'y a pas un soldat qui arrive à Nir Oz?
C'est une question de... qu'on se pose, vous avez une réponse à la question, qu'est-ce que faisait l'armée ?
L'armée n'avait pas prévu. L'armée avait fondamentalement été surprise. L'armée israélienne ne pouvait pas imaginer que le Hamas était capable d'une chose pareille. L'opération du 7 octobre avait déjà été repérée par le renseignement militaire, à tel point que cette opération-là avait même un nom en hébreu. Ils ont appelé ça Ramat Yericho. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait le 7 octobre, c'est-à-dire rentrer dans les chouvines, prendre des otages, massacrer le maximum de gens, terroriser la population, être accompagné par une pluie de roquettes, tout ça avait déjà été repéré par le renseignement militaire de manière tellement identifiée qu'il y avait même un nom. Ils appelaient ça l'opération Muraille de Jéricho. Mais ils ont enterré le rapport. Ils ont dit, mais non, tu vois le Hamas...
Problème de renseignement, en fait.
Non, puisque le renseignement savait. C'est le problème de décision. Ah. C'est que la direction de l'armée a dit que c'est impossible, ils sont incapables de faire ça, qu'est-ce que tu crois ?
Alors, on va aussi encore parler de Gaza pour une dernière question. Il y a une vingtaine d'otages selon les Israéliens qui sont encore vivants, alors qu'ils sont 50. Vous pensez qu'il faut continuer à les récupérer avant de refrapper, ou on se dit, bon, il ne reste plus que 20 dans l'état où ils sont, on peut y aller?
Alors, d'abord, la réponse est oui. Je pense qu'il faut tout faire pour récupérer le maximum de gens. Mais ma réponse est accompagnée d'une autre réponse. Et un jour, j'ai interrogé quelqu'un là-dessus. Il m'a dit, mais Bernard, en Israël, il n'y a pas les gens pour et les gens contre l'accord. On est tous pour et contre l'accord. C'est ça, la réalité.
Mais on l'a bien entendu.
On pense tous qu'il faut le faire, et on pense tous que c'est qu'on ne voudrait pas le faire.
Bernard, on a bien entendu, et vous, vous le traduisez souvent dans vos journaux, certains familles qui ont perdu des soldats, ou même certaines familles des otages, demandent à Benjamin Netanyahou de rentrer, de tout casser à Gaza, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte.
Mais les mêmes vous diront, mais d'abord les otages. Et pas tous d'ailleurs, et d'autres vont dire autre chose. Moi j'ai une animatrice à la radio à Paris, elle a signé, elle habite à Jérusalem, elle s'appelle Catherine Garçon, elle a signé elle et son mari un papier en disant, écoute, je sais bien que ça n'arrivera jamais, mais au moins j'ai signé le papier qu'elle a donné à ses enfants. Si pour une raison incroyable je suis prise en otage, je ne veux pas qu'on me libère. Elle a signé un papier, elle a 70 ans. Elle a dit, si il doit y avoir des négociations pour qu'on me libère, je ne veux pas qu'on me libère de prison. Mais, et d'ailleurs, cette expression « les familles des otages », elle n'existe pas, cette idée. C'est faux. Il n'y a pas « les familles des otages ».
Alors, comment vous dites ?
Des pauvres, d'ailleurs. Il y a madame quelque chose qui pense ça, madame autre chose qui pense autre chose. Ce n'est pas « les familles des victimes ».
D'accord.
Coordination, il y a un sentiment commun. Les familles des soldats, par exemple. Tous les jeunes Israéliens sont soldats. Alors quoi, toutes les familles, elles pensent la même chose ? Non. Des gens qui pensent comme ci et d'autres qui pensent comme ça.
Bernard Aboaf, on va faire une pause musicale dans cette émission. On va écouter David Dehors avec Shmor HaOlam, une chanson qu'on a beaucoup entendue lors de l'enterrement des enfants et de Chéri Bibas. Pause musicale, on se retrouve tout de suite après.
À tout de suite.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka Strasbourg. Notre invité aujourd'hui, Bernard Aboaf, directeur de Radio Shalom et le directeur de la rédaction. On a parlé avant la pause beaucoup de Gaza. Il y a plein de sujets corollaires en Israël. Il y a les sujets économiques, mais on ne va pas en parler, ça prendrait toute la émission. Il y a eu Gaza, mais il y a aussi le Liban. Est-ce qu'on peut dire qu'au Liban, Israël a réussi, entre guillemets, son coup ?
Contre toute attente, contre l'idée de l'administration Biden, c'est un succès total.
Ouais.
Total. Mais vous ne vous rendez pas compte, même on va dire, du caractère dingue de cette histoire. C'est-à-dire que Israël, avant le 7 octobre, était entièrement encerclé par les forces qui sont liées à Téhéran. Hamas au sud, et, Hezbollah au nord, et à l'est, on avait les milices du Hezbollah aussi, d'ailleurs, ça s'appelle pareil, mais en Syrie. Il y a eu un effet de domino qui fait qu'Israël a casser cet encerclement. Et l'élément le plus surprenant, l'élément, je vais vous dire, l'élément où vous, moi, Biden, quel que soit le niveau de la personne, au plus haut niveau, j'aurais dit, c'est possible de tuer Nasrallah, c'est possible de casser en deux le Hezbollah. Tout le monde aurait dit non. Ce qu'on peut faire, c'est les faire reculer. Après, on avait des interrogations. Est-ce qu'ils ont la capacité de faire sauter la raffinerie d'essence de Haïfa? Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire sauter l'hôpital de Haïfa? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller jusqu'à Dimona? Ça, c'était des interrogations. Mais il y avait un truc sur lequel tout le monde était d'accord, c'est on peut pas les briser en deux. On peut les faire reculer, on peut les tenir en garde, on joue, on peut obtenir un bon accord, on peut faire en sorte qu'ils reculent après la rivière Litanie. Mais les casser en deux, personne n'y a cru. Mais ils ont été cassés en deux. Ils n'ont plus de direction, ils ont trois chefs d'état-major successifs se font descendre. Le premier, éliminé. Il a un remplaçant. Éliminé. Il a un remplaçant. Éliminé. L'opération des beepers est incroyable.
Ouais, ça fait.
Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça fait tomber le régime syrien, qui était aussi un régime pro-iranien. Il tombe parce que on a tué tellement de gens du Hezbollah qu'il n'y a plus personne pour les défendre. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas morts sont mobilisés au Liban pour se défendre face à Israël. Donc les miliciens proches d'Al-Qaïda ou de Daesh en profitent et prennent le pouvoir. Donc troisième élément du domino, troisième pièce du domino qui tombe. Mais ça suffit pas. C'est déjà énorme. Ça suffit pas. L'Iran attaque par deux fois les Israéliens. La première fois, il y a 100% des missiles qui sont ratés. La deuxième fois, les Israéliens réagissent et démolissent les... Je sais pas combien, je crois qu'on
est 60%. Mais pour l'instant, l'Iran, ils n'ont pas trop de problèmes. Ils sont...
Les défenses antiaériennes iraniennes.
Israël ne va pas les attaquer, apparemment, puisque les Américains ont donné leur veto. C'est un peu compliqué pour Israël, vis-à-vis de l'Iran.
D'attaquer de nouveau ?
Ouais.
D'abord, déjà, qui vous a dit que les Américains ne sont pas d'accord ? France Inter ?
Je ne sais pas, je n'écoute pas France Inter.
Ben non, mais
j'écoute à moi,
qui c'est qui m'a dit ? À moi, qui c'est qui m'a dit que les Américains ne sont pas d'accord ? À moi. Même si c'est Donald Trump, ce n'est pas sûr que c'est vrai.
Ah.
Vous croyez que quand on va attaquer l'Iran, on va le dire avant à Bernard Aboif ?
On va pas le dire.
Non, on ne va pas le dire. On va même dire le contraire. On va dire nous, jamais.
Ah.
D'accord. Et on le fait.
Bon.
Donc on n'en sait rien s'ils sont pas d'accord. Les Israéliens sont arrivés à la conclusion qu'il faut le faire, que avoir tout ce que je viens de décrire rapidement et ne pas détruire le potentiel nucléaire iranien, c'est une bêtise. Le problème, c'est qu'ils veulent le faire avec les Américains, pas seulement avec le feu vert américain, avec les Américains.
Et les Américains participent de façon active.
Les Américains ont jamais donné autant à Israël. Et vous avez vu avec l'information qui est tombée ce matin, ils ont coupé les vivres à l'Ukraine, ce qui veut dire que s'ils avaient décidé de faire le contraire, ils l'auraient fait. Donc ce n'est pas une petite décision de continuer à livrer autant d'armement à Israël. Leur ambassadeur à l'ONU, ce matin, leur ambassadeur, c'est une femme, leur ambassadrice à l'ONU, a dit, non seulement on soutient Israël, même non seulement, donc elle est à l'ONU, alors elle dit, non seulement on les soutient, non seulement on ne condamne pas le fait qu'ils ont interdit à l'UNRWA, la branche de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens, ils ont fermé leurs locaux, elle a dit, mais maintenant la suite, c'est qu'il faut démanteler l'UNRWA.
Ah. On va très loin.
On n'a jamais eu un soutien pareil de la part des États-Unis en Israël.
Alors, Bernard Aboif, il y a un sujet dont on commence à parler de plus en plus en Israël, c'est la mise en place de chars au Sinaï. Beaucoup parlent d'une possible attaque de l'Égypte envers Israël. Vous y croyez ?
Le problème, c'est qu'on a commencé notre entretien en disant le 6 octobre, personne croyait qu'il y aurait le 7. Donc, en gardant ça en mémoire, je vous réponds non, je crois pas du tout que l'Égypte a envie d'attaquer Israël. Je pense qu'ils montrent des muscles, qu'ils veulent montrer aux Américains qui sont très sérieux quand ils disent qu'ils veulent pas accepter des centaines de milliers de réfugiés palestiniens, mais je pense qu'ils sont très faibles. L'armée égyptienne, c'est une des armées les plus faibles du Proche-Orient aujourd'hui. Ils sont même pas capables, justement, d'avoir le contrôle du Sinaï. On fait ce qu'on veut au Sinaï aujourd'hui. Al-Qaïda fait des trafics d'armes. D'ailleurs, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils ont aussi peur. Ils savent qu'ils sont faibles. Si vous importez dans le Sinaï, par exemple, 500 000 Palestiniens de sensibilité frères musulmans, c'est une catastrophe pour eux, parce qu'ils sont pas forts. Mais il n'y a plus d'armée arabe forte. Il n'y a pas. En Irak, il n'y a pas. En Syrie, c'est même pas la peine. Le Liban est défait. L'Égypte non plus. Il n'y a plus aujourd'hui de grande armée arabe. Non, il n'y a plus. Alors, on n'est plus à l'époque de Bachar el-Assad, de Nasser, de Sadat.
Alors Bernard Abouaf, je sais que c'est une question que vous n'aimez pas trop, mais je vous la poser. Quand même, c'est quoi dans les jours, les années qui suivent? Comment on voit les choses? La libération des otages, la suite de la guerre, l'arrêt de la distribution des aides alimentaires aux Palestiniens. Comment vous voyez l'avenir, je veux dire?
Ça va être très difficile de ne pas dire de bêtises. Alors donc je vais juste faire un constat, c'est que il n'y a pas assez de gens qui se posent cette question. C'est trop facile de dire oui, non, on fait la guerre, on verra demain. Alors on a fait ça pendant des années en gérant le Hamas, parce que finalement, qu'est-ce qui se faisait pour le Hamas? C'est pas vrai, Netanyahou n'a jamais soutenu le Hamas. Faut pas non plus, j'ai le droit d'être grossier d'une minute, oui. Faut pas déconner non plus. Faut quand même pas abuser non plus. Donc Netanyahou n'a jamais soutenu le Hamas, mais l'idée qu'on appelle en hébreu la conception, c'était il faut maintenir le calme, et il faut maintenir le calme le plus longtemps possible, et on verra après. Ils n'ont jamais cru au Hamas, ils ont dit on verra après. Pendant ce temps-là, nous on construit, pendant ce temps-là, Be'er Sheva va devenir l'une des plus grandes villes israéliennes, pendant ce temps-là, nous on construit, et eux ils font des jeux de petits garçons avec leur lance-roquettes qui ne nous font pas peur. Et on n'a pas réfléchi à plus loin que ça. Donc maintenant, il faut absolument qu'on réfléchisse à plus loin que ça. Mais on a surtout un constat tous les uns des autres, c'est que dès qu'il y aura la moindre autonomie à Gaza, dès qu'il y aura le moindre dollar qui sera donné, ce dollar sera d'abord utilisé pour stocker des armes. Donc on a un vrai souci. On a un vrai problème. Alors après, donc, la solution de Donald Trump, franchement, c'est normal. Ça serait quand même j'ai du mal à croire que des millions de Palestiniens vont partir. Il n'y a pas l'air quoi. C'est quoi l'idée de demain? Mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'idée pour demain qu'il faut croire qu'on est dédouané. Et parce que là, pour l'instant, moi je vous le dis, je l'ai dit à tout le monde autour de moi, là, l'histoire est non seulement pas terminée, mais nous, on libère des prisonniers en disant on espère bien qu'on va les tuer quand ils seront à Gaza, et eux, ils libèrent des prisonniers pour avoir de nouvelles forces pour pouvoir nous attaquer de nouveau. Là, l'avenir, c'est même pas une trêve. D'ailleurs, eux, quand ils disent on veut tout de suite de nouvelles négociations. Vous savez que là, c'était un accord en trois phases, la libération des otages. La première phase, elle s'est terminée vendredi. Donc maintenant, normalement, on doit négocier pour la deuxième, qui n'est plus une phase humanitaire, qui est une phase avec un règlement sur une solution à long terme. Donc eux, dans cette solution à long terme, ils demandent le retrait de l'armée israélienne et la fin de la guerre, ce qu'ils appellent la fin de la guerre. Mais pourquoi ils veulent la fin de la guerre? Pas pour vivre en paix, pour pouvoir se reconstruire. Et c'est même pas parce que moi, je les soupçonne. Ils le disent. Ils disent on va se reconstruire. Ils disent la seule chose qui n'est pas négociable, c'est qu'on déposera pas les armes. Et effectivement, il faut pour eux, d'abord, bon, il faut pas non plus... ça les intéresse aussi quand même que les gens aient un meilleur niveau de vie. Mais surtout, s'ils n'ont même plus de maison. Mais ça, c'est pas forcément, excusez-moi de dire ça, c'est pas forcément leur priorité. Le directeur de l'hôpital de Gaza a dit, il a été arrêté. Et oui. Il a dit, notamment parce qu'il y avait des otages dans son sous-sol. Il a dit qu'ils sont passés par son sous-sol. On n'a pas trouvé son sous-sol, mais ils sont passés dans son sous-sol. Et on lui a demandé comment tu fais rien, tu vas passer des otages, tu dis rien. Et il a raconté, il a dit, je vais vous raconter un truc. Un jour, ils utilisent constamment les ambulances, les dirigeants du Hamas, pour se déplacer dans la bande de Gaza. Et un jour, il a dit, puisque tu vas, je sais pas où, disons, à Rafah, prends un blessé avec toi. Mmh. Avec toi. Ne prends pas l'ambulance, on en a besoin pour les blessés. Il a dit, pendant que toi, tu vas partir avec ton ambulance, je sais pas où, prends un blessé. Mmh. Et le gars du Hamas lui a dit, non, ce que je fais, c'est plus important que ton blessé. Sincèrement que ce qu'ils font c'est plus important que les hommes, la terre est plus importante que les hommes, la religion est plus importante que les hommes.
Ce qui est très intéressant aussi, ce qui est on va dire un peu bizarre, c'est que toute l'Europe, le monde entier soutient les Palestiniens, alors que et le Hamas, alors qu'on voit que c'est des barbares. Il y a quand même un truc qui marche pas là.
Ben, d'abord, il y a la rencontre de beaucoup d'antisémitisme avec le fait que c'est un conflit qui est ancien et avec les réseaux sociaux. Et avec le fait que les images n'ont jamais joué en faveur d'Israël.
Ah, ça fait longtemps, ça.
Ça a toujours, ça a toujours été du côté palestinien. Et ça fait que le 7 octobre a été totalement effacé. Moi, j'ai dit hier à l'antenne, je suis très surpris que le film Brutaliste ait réussi à obtenir des Oscars, parce que normalement, c'est inaudible, ça, aux États-Unis, surtout dans les milieux culturels. Pas dire qu'on va donner un Oscar du meilleur acteur à un homme, un juif, qui est connu personnellement par avoir pris des positions sionistes, pas pro-israélienne, mais sioniste, comme vous et moi. Et dans le film, c'est un film sioniste. C'est un film qui parle du retour en Israël, des juifs après la Shoah, et qui ont raison de le faire. Et normalement, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, c'est ça même. Ça, c'est une vraie question. À la limite, j'ai envie de vous poser la question à vous, parce que je la pose à moi. On a connu une grosse crise et elle va se calmer ou ça va s'enraciner? Je sais pas. Moi, je sais pas, parce qu'une fois que vous avez fini de militer pour cesser le feu, vous militez pour contre l'apartheid. Alors, ça s'arrêtera. C'est pas lié seulement à la guerre. Vous allez lutter pour la Palestine de la mer from the river
to the sea. Bernard Abouaf, je vous remercie énormément d'avoir accepté de me donner votre sentiment sur ce qui se passe en Israël. J'espère avoir le plaisir de vous avoir, pourquoi pas un jour à Strasbourg, pour vous faire visiter les studios de la radio. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Merci, bonsoir à vous.